Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Dans nos séries de discussions actuelles, nous voulons chercher à comprendre l'enseignement de Jésus sur divers sujets nous concernant.
Et aujourd'hui, pour la deuxième fois, nous allons aborder le thème « Jésus et la famille ». Jean-Marc nous accompagnera dans nos discussions. La dernière fois, nous avons appris que Jésus, par son enseignement, a souligné l'importance de la famille. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce thème, car certaines des paroles de Jésus quant à la famille peuvent surprendre. Écoutons d'abord quelques-uns de ces textes, et ensuite Jean-Marc répondra à nos questions.
Évangile de Marc, chapitre 8, versets 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent pas l'approcher à cause de la foule. On lui fit dire, « Ta mère et tes frères sont là dehors, et ils voudraient te voir. » Mais Jésus leur répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font ce qu'elle demande. » Évangile de Luc, chapitre 12, versets 51 à 53. Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Non, mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre le fils et le fils contre son père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. Évangile de Luc, chapitre 14, versets 26 à 27. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple.
Donc, trois incidents viennent d'être lus où Jésus emploie des termes surprenants en ce qui concerne la famille. Dans le premier, il semble préférer la compagnie de ses disciples alors que sa propre famille cherche à lui parler. Ensuite, il parle de la division qu'il va apporter au sein des familles et également du besoin de renoncer à sa propre famille. Jean-Marc, tout ceci est étonnant. D'autant plus lorsque nous constatons à quel point Jésus souligne l'importance de la famille par ailleurs. Qu'en dites-vous?
Oui, nous devons faire très attention lorsque nous lisons de tels versets et comprendre que Jésus emploie de temps à autre dans ses discours un procédé appelé l'hyperbole.
Expliquez-nous la signification de ce mot.
L'hyperbole est une manière de s'exprimer par laquelle, pour faire passer un message, on emploie des paroles très exagérées, voire excessives, dans le but de faire réfléchir, de secouer les personnes dans ce qu'elles croient et de faire en sorte qu'elles se remettent en question.
Alors, quel message Jésus veut-il faire passer en disant par exemple, qu'il faut, pour le suivre, renoncer à son père ou à ses frères, etc.
Le message principal de ces propos est que Jésus doit occuper la première place dans la vie de ses disciples. Jésus se présente comme le Seigneur, le Roi Sauveur. Et, en tant que tel, nous devons lui accorder toute son importance. Le connaître, le suivre, lui obéir doivent être nos priorités. Aussi, ce que Jésus affirme est que notre relation avec lui doit être plus importante encore que toute autre relation, plus importante même que les relations avec notre propre famille. Car si nous plaçons notre famille avant Jésus, nous commettons alors une grave erreur. Toutefois, si nous laissons Jésus régner dans nos vies, il s'avérera alors que nous nous occuperons encore mieux de nos familles, que nous prendrons mieux soin d'elles.
Cela semble être un paradoxe. Pouvez-vous vous expliquer davantage?
Bien sûr, lorsque nous accordons à Jésus la première place dans notre cœur, nous avons alors soif de lire sa parole régulièrement afin de marcher d'une façon qui l'honore et de lui être agréable. C'est alors que nous découvrons que la Bible est remplie d'enseignements, nous encourageant à mieux aimer nos familles, et ces enseignements nous accordent également une sagesse qui nous permet de travailler dans ce sens.
Donc lorsque nous décidons de suivre Jésus par-dessus toute autre chose, il nous aide à devenir de bons parents ou à être des enfants obéissants. Car lorsque nous nous donnons à Jésus, il pourvoit en nous accordant la sagesse et le bon sens pour nous occuper au mieux de nos proches.
Oui, c'est lorsque Jésus occupe sa place comme chef de la famille qu'il nous aide à mieux accomplir nos devoirs dans notre famille. Ainsi, Jésus démontre toute l'importance de la famille dans la société. C'est pour cette même raison que nous ne devons pas faire de notre engagement envers Jésus une excuse pour délibérément négliger nos familles.
Merci Jean-Marc de nous avoir si bien éclairé sur ce point. Toutefois, l'un des versets lus évoque qu'il y aura des divisions au sein des familles, des divisions selon Jésus causées à cause de son nom.
Effectivement, Jésus nous place devant une triste réalité trop souvent rencontrée. Parfois, un conflit peut apparaître au sein d'une famille quand certains de ses membres deviennent disciples de Jésus, alors que les autres s'y opposent. En fait, cette division n'est pas apportée par Jésus lui-même, car son désir est le bien des familles. Au contraire, l'origine de cette division se trouve dans le comportement de ceux qui refusent de reconnaître Christ en tant que roi et qui s'opposent à ceux qui veulent le servir.
Que faire alors si l'on se trouve dans une telle situation?
C'est ici qu'il faut nous rappeler que notre première loyauté doit être envers le Seigneur Jésus lui-même. Les membres de notre famille peuvent chercher à nous dissuader de le suivre. Ils peuvent nous menacer, nous intimider. Ils peuvent même avoir recours à la violence ou nous demander de ne plus revenir à la maison. Cependant, quoi que nous devions endurer, notre première loyauté doit être envers notre Seigneur Jésus, qui saura bien s'occuper de ceux et de celles qui doivent endurer la persécution à cause de leur amour pour lui.
Et comment un chrétien doit-il réagir lorsqu'il se trouve confronté à l'opposition dans sa famille?
Comme dans toute situation de conflit, le chrétien est appelé à combattre le mal par le bien, à combattre la haine par l'amour, à faire preuve de douceur et de maîtrise de soi là où la violence règne. Le chrétien doit patiemment attendre les occasions qui suscitent la réconciliation, les occasions qui apportent la paix. Car le chrétien doit être disposé à pardonner. De même, il doit tenir ferme dans sa foi et son engagement auprès de Jésus. Et s'il est confronté à des dangers réels, il peut prendre des mesures pour se protéger.
Mais cela ne doit pas être facile d'aimer sa famille lorsqu'elle se retourne contre soi.
Non, mais dans les moments conflictuels, les périodes difficiles, il nous faut persévérer. Beaucoup, grâce à leur bon témoignage, leur exemple de bonté et d'amour, ont fini par se faire accepter à nouveau dans leur famille. D'autres encore ont la joie de voir des membres de leur famille qui s'opposaient à Christ se tourner vers le Seigneur. Il faut admettre que pour certains, les conflits se poursuivent inlassablement et finissent par une rupture de relation. de telles personnes trouveront leur consolation en l'Éternel, car il est un véritable Père aimant et bon. De telles personnes trouveront aussi dans l'Église une nouvelle famille. Leur douleur ne s'effacera peut-être pas entièrement, mais l'Éternel demeurera avec eux.
Merci Jean-Marc de nous avoir si bien éclairé sur ces versets difficiles. Jésus désire bénir nos familles, mais dans un monde marqué par le péché et le refus de le reconnaître comme le Seigneur, nombre de familles sont dissoutes. Que chacun puisse tirer profit de ces réflexions et les appliquer à sa propre situation familiale.
Merci Yann et merci Jean-Marc. Nous allons écouter un chant que nous offrons à tous ceux qui se trouvent sans famille ou très isolés ou encore mal compris par leur propre famille.
Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur.
Vous venez d'écouter un extrait du chant « Dieu, tu es le soutien de mon cœur » interprété par Vincent et Joël North.
Nous prions afin que l'Éternel vienne auprès de vous, chers amis auditeurs, pour vous apporter son soutien selon vos besoins les plus profonds. Alors, à bientôt et au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.